Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je vous avoue que je suis assez impressionné. J'ai des souvenirs d'amphithéâtre plein comme ça, mais ça remonte à l'époque de mes études. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui me met à l'aise. Je voudrais d'abord remercier la MAJE de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de venir m'exprimer devant vous sur un sujet qui me tient à cœur et qui, j'imagine, tient à cœur à beaucoup d'entre vous. La situation en Algérie évolue d'heure en heure, donc la difficulté, c'est de ne pas trop coller à l'actualité, d'essayer de dégager des éléments de réflexion. Je vais parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, et puis j'espère que nous aurons un débat et un échange pour nous alimenter les uns les autres, nos réflexions, nos certitudes, nos interrogations. Le documentaire qui vient de passer, en tout cas le montage, qui est très bon montage, on voit pas du tout que c'est un montage, hein, effectivement, donc c'est bien, c'est linéaire. Il y a plusieurs choses abordées et j'aimerais rebondir là-dessus finalement parce que il y a plusieurs manières d'aborder la situation actuelle, mais il y a un élément qui, à mon sens, est fondamental et sur lequel j'aimerais commencer et insister. C'est l'irruption, finalement, d'une génération qu'on connaît pas très bien, qui était censée être la génération, je dirais, du renoncement, de la consommation, de l'apaisement, quelque part, et qui est cette génération de jeunes Algériens et de jeunes Algériennes, nées à la fin des années 90, début des années 2000, et qui est le fer de lance, quelque part, du mouvement. Sans cette génération, le mouvement du 22 février n'aurait pas eu le même impact. Ce sont ces jeunes-là qui sont sortis les premiers. Les plus âgés étaient bien plus réticents. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu, enfin la majorité des experts, des observateurs n'ont pas vu venir ce qu'on appelle le Hirak, le mouvement populaire algérien, parce qu'on était persuadé que l'idée, cette espèce de réticence, de barrière, qui consistait à dire à chaque fois que les gens exprimaient un ras-le-bol par rapport à un système figé, de dire « Écoutez, si on manifeste, on va déstabiliser le pays, et si on déstabilise le pays, on va retomber dans le cauchemar des années 90 », cette génération, elle n'a pas connu le cauchemar des années 90. Elle est née après, ou juste à la fin. En tout cas, elle n'a pas des souvenirs suffisamment importants pour l'empêcher de manifester et de s'en prendre au système. Et c'est effectivement cette génération qu'on voit dans le reportage qui, à mon avis, joue un rôle fondamental. Elle joue un rôle fondamental parce que le 22 février, quand les cartes sont claires, quand le schéma est clair, quand on voit qu'on va avoir un cinquième mandat, que tout est prêt, qu'il y a eu ce fameux meeting à la coupole d'Alger où on a acclamé un absent, où on a fait un acte de dévotion pour un cadre, et qu'on a distribué ensuite des sandwichs au cachet pour récompenser les 10 ans, et bien à ce moment-là, c'est ces jeunes-là qui sont sortis les premiers et qui ont entraîné leurs parents qui disaient « Bon, attention, c'est jamais ce système. » Et effectivement, on a tous en tête ce qui s'est passé en octobre 88, on a tous en tête ce qui s'est passé dans les années 90, on a tous en tête la manière, mon confrère Aden le dit, de Loatan le dit bien dans le reportage, la manière dont la vie politique a été empêchée sous Bouteflika. Pendant 20 ans, derrière un paravent démocratique, les gens, l'activité politique au sens propre était quasiment impossible. Et il le dit, une réunion comme celle-ci, par exemple, était impossible, quel que soit l'endroit choisi, y compris dans la sphère privée, c'est-à-dire une salle privée. Les organisateurs s'exposaient à énormément de difficultés. C'est ce qui fait aujourd'hui pourquoi on a un mouvement populaire de masse, d'importance, puissant, chose historique, il est pacifique. Autre point historique de ce mouvement, il est national, c'est pas simplement Alger, c'est aussi Bolj, c'est aussi Bouira, c'est aussi Sétif, c'est aussi donc c'est pas simplement une région de l'Algérie en particulier qui se soulève ou qui va dans la rue, et le reste du pays qui regarde. Néanmoins, l'une des faiblesses de ce mouvement, c'est peut-être aussi sa force, mais c'est aussi sa faiblesse, c'est la composante de représentation politique. Qui peut parler au nom de ce mouvement? Qui peut formuler les revendications de ce mouvement et qui peut être habilité demain à négocier au nom de ce mouvement? Et nous payons très cher en Algérie aujourd'hui les deux décennies de Bouteflika qui a ôté toute substance à la vie politique. En déconsidérant le fait politique, en empêchant les gens de faire de la politique, en agissant pour miner les rares partis d'opposition de l'intérieur, et donc finalement en étant le seul à tirer les leviers de la vie politique, et aujourd'hui on est dans une phase de reconstruction. On est dans une phase de reconstruction, alors parfois, je dis souvent que l'histoire, avec un grand H, n'est pas une connexion Internet à haut débit. L'histoire, ça prend son temps. Et là, on est confronté à cette contradiction majeure d'un mouvement naissant, d'une société civile qui renoue avec elle-même, d'un peuple qui renoue avec sa fierté, qui renoue avec son potentiel, sa capacité, et des exigences de l'heure. Les exigences de l'heure, c'est la politique. La politique, c'est des négociations. Les exigences de l'heure, c'est une transition. Et une transition vers la démocratie, c'est toujours un processus incertain, délicat, où interviennent des éléments non démocratiques. Mais c'est un processus de négociation. C'est un processus de recherche d'équilibre. Et effectivement, beaucoup de gens s'interrogent en disant « Mais vous avez obtenu l'essentiel, vous avez obtenu le fait que Aziz Bouteflika ne fera pas de cinquième mandat ou de quatrième mandat plus. Pourquoi les Algériens sont encore dans la rue ?» Et autre question qu'on entend beaucoup, notamment dans la presse occidentale, on voit beaucoup dans la presse occidentale de relais de gens qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe en disant « Mais pourquoi donc vous opposez-vous à l'idée d'une élection présidentielle le 12 décembre prochain ?» Je rappelle que il y a déjà eu un rendez-vous manqué, annulé, puisque, au terme de, selon la Constitution, les Algériens auraient dû voter pour une élection présidentielle au mois de juillet dernier, puisque Aziz Bouteflika a démissionné. Donc l'actuel président par intérim, moi je l'appelle le président post-intérimaire, parce que normalement son intérim aurait dû se terminer en juillet, début juillet. Pourquoi donc les Algériens, enfin une partie des Algériens, ceux qui manifestent, le Hirak, comme ils l'ont montré vendredi dernier, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas voter? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas aller à cette élection présidentielle? Qu'on soit clair là-dessus, c'est pas d'anarchie, au sens politique du terme. C'est pas un rejet des institutions. C'est pas un rejet de la Constitution. C'est juste une lecture pragmatique de la situation. Les Algériens savent qu'en l'état actuel des choses, quand l'état de la persistance du système, compter sur des élections, une élection présidentielle pour changer les choses est un risque majeur. Avec le gouvernement actuel, qui est présenté comme étant un gouvernement de transition, mais qui prend quand même des décisions, qui fait passer des lois, et qui est la résultante, qui est issue des 20 années de Bouteflika. Pourquoi, tout d'un coup, des gens qui se sont opposés à la démocratie, pourquoi tout d'un coup des gens qui ont persécuté les militants de la société civile et des droits de l'homme, pourquoi les gens qui se sont opposés de manière systématique à tout changement majeur dans le système politique algérien, pourquoi ces gens se transformeraient-ils d'eux-mêmes? Tout simplement parce que Bouteflika est parti. Et donc c'est cette immense réticence, cette immense suspicion à l'égard du système, qui fait que les gens s'opposent à l'élection présidentielle. C'est pas qu'ils ne veulent pas d'un président, ils voudraient qu'une élection présidentielle soit organisée dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on ait pris le temps de réformer l'administration, qu'on ait pris le temps de réviser les listes électorales, et qu'on prenne le temps de mettre en place une vraie structure de suivi et de surveillance des élections. Ça, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez établi, et c'est ce qui fonde les manifestants, enfin, les manifestations actuelles, les gens disant, expliquant en clair et net qu'ils ne sauraient accepter qu'on leur refasse le même, je dirais, le même circuit, le même schéma auquel on a assisté à tellement de fois. Pour ceux qui s'en souviennent, la fin des années 90, c'était ça. On nous avait dit, c'est la fin de la violence, les groupes armés sont vaincus, l'Algérie va rentrer dans une nouvelle ère, la démocratie, la liberté, on a tiré les leçons du passé. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une élection présidentielle où Abdelaziz Bouteflika était clairement désigné pour être le vainqueur, à tel point que ceux qui étaient ses concurrents potentiels se sont retirés la veille du scrutin. Parce qu'ils ont compris que, comme on dit en Algérie, match meilleur, le match était vendu, joué d'avance. Et aujourd'hui, on va, si on est observateur de la vie politique algérienne, on commence à voir que deux noms se dégagent parmi les candidats. On va peut-être avoir un lièvre et celui qui va gagner, et que tout le reste des autres candidats n'a absolument aucune chance de l'emporter. Donc voilà un peu pourquoi les gens sont... La manifestation, l'appétit vient en mangeant, les Algériens sont sortis dans la rue pour dire non à un cinquième mandat, mais très vite, leur manifestation les conduisent à dire non au système, un système qui a toujours dirigé ce pays, qui a toujours fait en sorte de brider le pays. Dans le livre que j'ai écrit, le sous-titre, c'est « Le pays empêché ». Cette expression, je l'ai voulu, parce qu'un pays empêché, c'est un pays qui a un potentiel énorme et qui est empêché de se réaliser à tous les niveaux. L'Algérie a énormément de potentialités, elle a l'énergie, elle a les hommes, elle a l'eau, elle a une agriculture qui tient encore le coup, elle a des compétences, elle a une diaspora, elle a de l'argent, elle a encore de l'argent, contrairement à d'autres pays du monde arabe qui ont connu des périodes de transition, je pense aux voisins tunisiens. L'Algérie a aussi les moyens de financer une période de changement graduel, de transformation. Alors, ça ne va pas s'obtenir du jour au lendemain, mais en tout cas qu'on soit dans un pacte national où l'idée du changement et du fait que les Algériens aient plus le droit de participer à la vie politique et qu'ils aient plus de prise sur les décisions qui concernent leur quotidien, on pourrait financer cette période qui est toujours délicate, parce que c'est des périodes toujours difficiles à gérer. Eh bien, ce pays empêché, il est encore. Et ce n'est pas le fait d'organiser une élection présidentielle de manière un peu, je dirais, précipitée, en se réfugiant derrière la Constitution, laquelle Constitution n'a jamais cessé d'être foulée aux pieds. Je rappelle que c'est une Constitution qu'on a changée au gré des circonstances. On l'a écrite, on l'a adoptée au milieu des années 90. Je rappelle que c'est une Constitution qui limitait le mandat présidentiel à deux. Et puis ensuite, c'est une constitution qui a été amendée pour pouvoir offrir une présidence à vie à Bouteflika, troisième mandat et plus, et on a bien vu ce que ça a donné, puisqu'on se dirigeait allègrement vers le cinquième mandat, d'aucuns plaisantant en disant que le comité de préparation pour le sixième mandat était déjà en place. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont réticents. Une autre option qui est sur la table et qui fait partie aussi des revendications d'une partie des manifestants, en tout cas des parties des gens qui veulent le changement, c'est l'idée d'une assemblée constituante. Une assemblée constituante, c'est-à-dire que plutôt que d'élire un président, on élise des députés qui auront la lourde charge de réécrire la constitution. C'est une vieille revendication du champ politique algérien. Elle remonte au début des années 60, en tout cas dès lors que le FLN s'est imposé comme parti unique. Une grande partie de l'opposition de l'époque, opposition qui était interdite, je le rappelle, qui était persécutée, a plaidé pour l'adoption d'une constituante. C'est un sujet qui divise aujourd'hui. Qui divise pourquoi? Parce que écrire une nouvelle constituante, une nouvelle constitution, pardon, c'est prendre aussi le risque d'aborder des questions qui fâchent, d'aborder des questions clivantes. La place de la religion, par exemple, l'identité, la langue. La question de la femme. Aujourd'hui, on a un élan unanime de la société algérienne, en tout cas pratiquement unanime pour le changement. Les images sont impressionnantes et c'est un vrai phénomène historique. On n'a pas suffisamment encore pris la mesure de ce qui se passe dans ce pays. On en est à 31, 32 vendredis d'affilée de manifestations, de mobilisations, une mobilisation qui a que ni le ramadan ni la fournaise de l'été n'a pu casser et qui reprend de plus belle aujourd'hui. C'est vraiment un mouvement historique. Élan unanime, simplement dès lors que si demain on rentre dans les discussions autour d'une nouvelle constitution, le danger est réel de voir cet élan se fracasser et de voir des clivages apparaître. Pour ceux qui ont suivi l'expérience tunisienne, c'est un exemple. On voit bien que dès lors qu'on parle de constitution, de texte fondamental, on est dans des divisions profondes. Là, ça a failli conduire la Tunisie à la guerre civile. Elle s'en est sortie de justesse. Et donc, beaucoup de gens préféraient une solution intermédiaire en Algérie. La décision d'organiser des élections présidentielles, mais pas avant d'avoir, je dirais, d'une certaine manière, non pas totalement assaini, mais en tout cas au moins embelli, amélioré le système tel qu'il existe. Bien entendu, ce n'est pas la position de l'état-major et du chef d'état-major. Le général et vice-ministre de la Défense et chef d'état-major, Ahmed Ben Salah, qui lui veut absolument que les Algériens aillent voter le 12 décembre prochain. L'armée algérienne, dans l'extrait que vous avez vu, je le disais déjà, est une faiseuse de roi. C'est toujours jamais aucun président n'a pu s'installer au palais de Moradia sans son aval. Et elle continue à être l'arbitre. Mais par contre, ce qu'elle déteste plus que tout, c'est d'être au premier rang. Elle a besoin Le système algérien a toujours eu besoin d'une espèce de formalisme, de légalisme. Et donc, plus vite un président sera élu et plus vite l'Algérie aura toutes les apparences d'un pays où la légalité est respectée et où le système continuera à évoluer comme il a toujours évolué, c'est-à-dire dans l'opacité en matière de prise de décision et dans le manque de transparence. L'armée, en tout cas le chef d'état-major, promet que c'est une grande étape démocratique qui serait enclenchée si jamais les Algériens votent. C'est l'avis d'une minorité de gens ou de pragmatiques qui disent, écoutez, ma foi, tant qu'à faire, plutôt que de prendre le risque que la situation dérape, parce qu'elle peut toujours déraper, que ça ouvre la voie à une répression plus forte, tentons l'expérience d'une élection présidentielle en espérant que le futur élu aura une marge de manœuvre et qu'il pourra, au fur et à mesure, s'affranchir de la tutelle pesante des militaires et en tout cas de la tutelle pesante de ceux qui n'imaginent pas le pays autrement que il est aujourd'hui dans son mode d'organisation, c'est-à-dire une minorité qui décide pour le reste de la population. Or, on est au 21e siècle. Comme je le disais tout à l'heure, on a l'irruption d'une jeune génération qui est bien plus connectée, qui voit ce qui se passe à l'étranger. C'est un pays qui a des défis majeurs. Je rappelle que l'Algérie enregistre 1 million de naissances par an. Donc la démographie, on pensait que l'Algérie était entrée en transition démographique. Ce n'est pas du tout le cas. La courbe repart. Parce que c'est temporaire ou pas, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, les années 90 ont juste été un effet retard. Il y a énormément de défis et on n'imagine pas ce pays géré comme il a été géré au cours des 30 dernières années, voire les 40 dernières années. Tout ça pour dire qu'on peut effectivement parier sur une élection présidentielle qui déboucherait sur une belle surprise et qui ouvrirait la voie à l'émergence d'un Gorbatchev algérien. Mais le risque est immense et quand on voit la ferveur qu'il y a dans les rues, la mobilisation des gens, ce serait dommage de rater cette occasion. Ce serait vraiment dommage de rater une nouvelle occasion de faire de l'Algérie ce qu'elle mériterait d'être et ce qu'elle devrait être. Et ça m'amène à la conclusion de cette intervention parce que il est parfois aussi nécessaire de dire les choses qui fâchent. Le pouvoir n'est pas l'unique responsable de la situation en Algérie. Le pouvoir, effectivement, Bouteflika n'aimait pas le peuple algérien. Comme le dit le journaliste Tchiko, il n'a jamais reçu des personnalités algériennes. Il avait un mépris souverain pour la presse algérienne. Il a passé à une époque de son premier mandat, il a passé son temps à voyager et à ignorer le reste de la situation. On a un système qui a toujours monopolisé le pouvoir, qui a exercé un mépris. Je pense, dans ma chronique de cette semaine, je cite deux exemples qui, pour moi, sont symptomatiques du mal algérien. Il y a ce jeune qui a manifesté, qui a été embarqué donc, pour délit d'opinion, qui malheureusement pour lui souffre du cancer et à qui le juge a refusé le droit de sortir de prison pour aller en chimiothérapie. Pour moi, c'est symbolique de ce qu'a toujours été le système algérien à l'égard du peuple algérien. Et puis, il y a malheureusement cet incendie dans une maternité qui en dit long. Je rappelle qu'il y a près de 12 nourrissons qui sont morts et qui ont dit long sur l'état de dégradation du système de santé en Algérie, qui est même un pays riche, qui a 60 ans et qui ne peut plus se cacher derrière l'excuse du sous-développement hérité de la période coloniale pour justifier ce genre de triste de drame. Mais on sait bien aussi que la dérive du système, la dérive du pouvoir et l'usage d'un discours complotiste ont tendance à déculpabiliser les uns et les autres. L'Algérie va mal et on ne le dit pas assez souvent. Et les discours qui consistent à dire que l'Algérie va bien et qu'elle fait l'objet d'un complot a pour conséquence nuisible de laisser penser que la solution elle est simplement dans le changement de ceux qui dirigent le pays. C'est, on parlait de révolution dans cet extrait, la révolution elle doit être générale. C'est, ce pays attend qu'il se relève et qu'il y ait une remise en cause générale, y compris de la population dans ses habitudes, dans ses usages, dans son comportement, dans le rapport qu'elle entretient à l'espace public, à l'environnement. C'est une question qu'on n'aborde jamais en Algérie, mais j'ai remarqué il n'y a pas longtemps à quelqu'un que les grandes villes algériennes font partie des villes les plus polluées dans le bassin méditerranéen. Certaines d'entre elles sont bien plus polluées que des villes qui reçoivent les croisiéristes, qui sont pourtant des grosses sources de pollution. Donc il y a l'idée que ce Hirak, ce mouvement populaire, doit effectivement déboucher sur un changement notable de structure, un changement notable de la manière d'exercer le pouvoir, mais que ça doit être aussi une révolution, y compris aussi pour les Algériens. Et on pourra y arriver à la condition d'accepter l'idée que ce pays actuellement est en échec et qu'on sorte du discours un peu triste, comme je le dis, qui consiste à dire que c'est un paradis et qu'il est l'objet de tous les complots de la Terre. Non, ce n'est pas un paradis sur le plan géographique, mais ce n'est pas un pays en réussite. Nous sommes loin derrière dans tous les classements. Tous les classements internationaux, quel que soit vous prenez n'importe quel classement, indice de qualité de l'air, indice de développement humain, résultats aux examens, niveau dans telle ou telle université, et là on voit l'étendue des dégâts. Et le drame, c'est qu'on continue à abreuver les gens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire. Continue à laisser croire que nous sommes un pays émergent. Nous ne sommes pas un pays émergent. Pas encore le cas. On pourrait l'être. On pourrait même être potentiellement demain un candidat qui frapperait à la porte de l'OCDE. Mais ce n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et l'un des messages, c'est de dire ça. C'est de dire le Hirak, qui a énormément d'enjeux en termes de bouleversement politique, doit aussi avoir un enjeu en matière de modification du fonctionnement de la société. Je suis bien conscient que c'est un discours très difficile à entendre, notamment lorsqu'il est prononcé à l'extérieur du pays. Dans tous les cas, il faut bien le faire. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions et remarques avec énormément de